Radio Okapi. Journal présenté par Jacques-Yves Molima.
Le chef de l'État s'adresse ce lundi 13 décembre à la nation devant le Parlement réuni en congrès. Félix-Antoine Tshisekedi reviendra sans nul doute sur la question de la sécurité avec l'état de siège à l'Est, mais aussi sur le social avec, entre autres, la question de la gratuité de l'enseignement. Et puis on en sait un peu plus sur le fonctionnement interne de l'ADEF, ce groupe armé accusé d'être responsable des massacres de nombreux civils dans la région des Béni et de l'Ituri. Dans ce journal, notre reporter Martial Papi Moukeba nous parlera des principaux commandants actuels. Enfin, notre invité dans cette édition du journal, c'est Wenceslas Boussané. Il est professeur de droit à l'Université catholique de Bukavu. Il nous parlera du contentieux autour de la question de la déchéance du gouvernement provincial du Sud Kivu. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Le président de la République prononce lundi son discours annuel sur l'état de la nation. Félix-Antoine Tshisekedi sera tout à l'heure devant l'Assemblée nationale et le Sénat réuni en congrès conformément à l'article 77 de la Constitution. Dans son discours qui ne donnera lieu à aucun débat, le chef de l'État reviendra sans nul doute sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC sous état de siège depuis plusieurs mois maintenant, mais aussi sur la situation politique avec la tenue des élections en 2023, l'économie avec les efforts de la lutte contre la corruption ainsi que le social avec la pandémie de la COVID-19 et la gratuité de l'enseignement des bases. Ce discours du président Félix-Antoine Tshisekedi intervient à deux jours seulement de la clôture de cette session budgétaire dont Michel Kifindangoï. Le calendrier connaît encore plusieurs matières importantes non encore examinées.
À deux jours de la clôture de cette session, le Sénat n'a débuté qu'hier dimanche l'examen du projet de loi des finances 2022. Ce texte est resté bloqué jusqu'à samedi à l'Assemblée nationale, depuis le 15 septembre dernier, date de son dépôt par le gouvernement. Au cours de la plénière de jeudi dernier, le président du Sénat et l'ensemble des sénateurs ont fustigé le retard qu'a pris l'examen du budget à l'Assemblée nationale, alors qu'il a été déposé dans le délai par le gouvernement Samalou Kondé. Étant donné que la loi sur les finances publiques prévoit 40 jours pour son examen à l'Assemblée nationale et 20 jours au Sénat, il est possible que les sénateurs n'aillent pas en vacances parlementaires ce mercredi. Le Sénat aura donc besoin des moyens financiers pour la convocation d'une session extraordinaire de 2 semaines afin d'examiner efficacement le budget 2022, matière principale de cette session, souligne un sénateur. En dehors du budget, d'autres matières importantes comme la loi électorale n'ont pas été examinées. Le non-examen de ce texte au cours de cette session risque de retarder le processus électoral en cours, craignent certaines organisations de la société civile.
Justement au sujet du vote du budget 2022, l'Assemblée nationale a adopté ce texte samedi avant de le transférer au Sénat pour une seconde lecture. Estimé à plus de 20 000 milliards de francs congolais par le gouvernement, le budget 2022 est revu à plus de 21 000 milliards par la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Pendant 7 ans, Michel Kifindangoï, le Sénat qui venait d'examiner la loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2020 déplore des dépassements budgétaires et promet de mettre en place une commission d'enquête pour établir les responsabilités.
Expliquant aux sénateurs les raisons des dépassements budgétaires, le ministre des Finances évoque la qualité des prévisions qui ne permettent pas au gouvernement de répondre à ses charges. Nicolas Kazadi promet de prendre des dispositions pour que cela ne se reproduise plus, une réponse qui ne convainc pas le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo.
Lorsque le gouvernement précédent devait rendre le tablier, tout ce qu'on a sorti sans justification, on demande à la Banque centrale de régulariser. 700 milliards de francs congolais, nous ne pouvons pas l'accepter, nous, en tant qu'autorité budgétaire.
Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, le budget 2022 est passé de 20 000 à 21 000 milliards de francs congolais après son examen approfondi à la commission ECOFIN. Boris Mboukou.
Votre commission a dégagé les améliorations des prévisions de recettes de l'ordre de 1 220 milliards de francs congolais. Le projet de loi de finances est présenté à la hauteur de 21 000 milliards.
francs congolais.
Notez que les fonds de la taxe RAM n'ayant pas été retracés dans les recettes du budget 2022, la commission ECOFIN a demandé la suppression sans délai de cette taxe, ce qui lui a valu des acclamations frénétiques de la plénière.
Accusé d'être responsable des massacres de nombreux civils dans la région de Beni et de l'Ituri, les rebelles ADF sont la cible des opérations conjointes lancées par les armées congolaises et ougandaises le 30 novembre dernier. Mais on en sait un peu plus sur le fonctionnement interne de cette rébellion. Marcel Papimukeba, qui sont actuellement les principaux commandants?
À en croire des sources sécuritaires, le commandement actuel des ADF est constitué des 6G ougandais avec à leur tête Moussa Sekabaluku. Ces membres historiques de la première génération des ADF est considéré comme les décideurs finaux au sein de ces groupes armés. Les mêmes sources font savoir que Moussa Sekabaluku aurait mis en place un réseau d'autofinancement de la rébellion qu'il gère grâce à des complicités avec notamment comme activité le commerce des bois entre la RDC, l'Ouganda et le Kenya. Nasser Abdouhamid Dirou est le commandant en chef des opérations de combat des ADF depuis 2014. Il est présenté par des sources sécuritaires comme le planificateur et le donneur d'ordre des différentes attaques de ces groupes armés. Elias Segouja est considéré comme la troisième personnalité de la rébellion. C'est un commandant de terrain qui opère à Beni sous le sobriquet de Feza, révèle des sources proches du dossier. Les ADF s'appuient également sur une rhétorique religieuse. Le Cheikh Lumissa assure les fonctions de chef religieux et des responsables des communications externes, alors qu'Abdourahmane Ouassoua est le juge suprême. Il est également le chef de la police et responsable de la discipline et de l'application des peines au sein des ADF. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Entre-temps, les députés nationaux de l'Ituri disent garder espoir pour un retour de la paix durable dans cette province en proie à la violence créée par des groupes armés. Ils l'ont dit ce week-end à la fin de la visite officielle de 5 jours à Bunia du ministre de la Défense et ancien combattant. Ces élus estiment que tous les problèmes sécuritaires qui rongent l'Ituri et qui empêcheraient l'État de siège d'atteindre son objectif ont été exposés au ministre Gilbert Kabanda. Ces députés, Marcel Kizabiamungu, appellent la population de rester confiant quant aux décisions qui seront prises dans les jours à venir par le président de la République.
Selon le président du caucus du parlementaire de l'Ituri, cette mission mixte gouvernement congolais parlementaire de l'Ituri a pris le temps à Bunia d'écouter toutes les couches de la population, y compris les responsables sécuritaires, afin de comprendre ce qui bloque vraiment les retours de la paix dans cette province. Après plus d'une semaine de consultations, le député Serge Moubert pense qu'il y a de l'espoir de recouvrer la paix sur l'ensemble de l'Ituri. Selon lui, le problème est connu. Il faut y apporter une solution. Serge Moubert.
Les grandes décisions seront prises et je pense que les opérations militaires vont changer. Nous avons récolté plusieurs données ici. L'armée a réclamé l'effectif. Le mec a dit que nous allons parler au chef. Je ferai tout de mon mieux pour que je puisse lui parler personnellement, aussi lui dire certaines choses que nous avons découvertes sur le terrain.
Pour son collègue Jackson Aoussé, la population doit accompagner les autorités mises durant l'état de siège pour leur permettre d'atteindre leur objectif, celui d'instaurer la paix en Ituri.
Nous demandons à la population à ce stade leur mobilisation, leur adhésion et leur soutien à l'état de siège qui sera réformé parce que nous allons aboutir à cela et à la mutualisation des forces. Nous demandons leur soutien sans condition parce que nous voulons que Irumu soit pacifié dans sa partie sud, Djougou dans sa totalité, Mungwalu, Drodro, Lipri partout là.
Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Dans les territoires de Masisi au Nord Kivu, les combattants des groupes armés locaux se livrent de plus en plus à des tracasseries contre les populations dans les villages et les agglomérations. Le président de la société civile de Bachali, qui déplore cette situation, dit craindre que cette période de fin d'année se passe très mal pour les habitants de cette partie. Sifa Maguru, il déplore le retard du lancement des activités du PDDRC censé récupérer et encadrer tous les combattants favorables à la reddition.
Depuis que les FARDC ont ralenti les opérations militaires pour permettre à ces combattants de se rendre, ces derniers circulent librement avec des armes, exigent des taxes et commettent toutes sortes d'abus. Toby Loakiokarangu Toby ajoute que ces combattants imposent des amendes illégales en toute impunité.
Ces groupes armés ont imposé une taxe qu'on appelle bonne fête. Celui qui n'a pas payé, il ne peut pas circuler librement et on lui soumet à des amendes exorbitantes. importante.
Parce... On exige combien?
Oui, on exige 1000 francs. Il y a des endroits là où on demande 2000 francs. Oui, les incidents sont nombreux. Le cas de tuerie, kidnapping, des violences sexuelles.
Cet acteur de la société civile se demande pourquoi on a stoppé les opérations alors que le processus de démobilisation n'est pas encore prêt. Le porte-parole des opérations Sokola 2 indique que tous les combattants qui continuent dans les initiatives armées seront à nouveau traqués par les FARDC. Notez qu'au moins trois groupes armés, notamment les Nyatura CMC, Nyatura Abazungu, l'un des CRS rénovés de Bwira, sont cités dans les tracasseries de la population sur les axes Mweso, Kalembe Pinga, Mpati, Kivuye, Kaira et dans tous les Bachali, précise la société civile. Goma, Sifamagoro, Radio Kapi.
Autre nouvelle, au Sud Kivu, près d'une centaine d'établissements d'enseignement supérieur et universitaire ont été jugés non viables par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Ils sont ainsi appelés à fermer leurs portes. Cette décision est contenue dans une circulaire prise par le ministre de l'ESU, Muindo Nzangi, ce vendredi 10 décembre. Sintia Bachizi Nabizana, une décision saluée par la conférence des chefs d'établissement de l'ESU du Sud Kivu.
88 établissements, aussi bien du secteur public que privé, sont concernés par la circulaire du ministre Nzangi. Ils ne connaîtront donc pas de rentrée académique en janvier 2022. Exemple de l'université Biosadec à Bukavu, l'université officielle de Fizi à Baraka, l'ISTEM Kamituga ou encore l'Institut supérieur d'études agronomiques ISDER Uvira. Une bonne nouvelle pour les étudiants selon Bibish Masoka, présidente de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU du Sud Kivu.
C'est un garde-fou, surtout pour les étudiants qui prennent l'inscription dans ces différents établissements. Avec la liste là, ils seront en mesure de faire un bon choix. Les autorités provinciales vont faire le suivi de la bonne exécution de cette circulaire.
Cette décision est consécutive à une enquête de viabilité initiée en juillet et août 2021 par le ministre Nzangi. Sur base de quels critères les établissements ont été évalués, ébauche de réponse avec Bibish Masoka.
Les critères qui portent sur les infrastructures, les bâtiments, aussi les équipements, les ordinateurs, les équipements du labo, etc. Les critères qui portent sur le nombre d'enseignants qualifiés, tous les personnels aussi administratifs.
Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Kapi.
Au Kasaï Oriental, arrivé ce dimanche en Mbujimayi d'une centaine d'investisseurs kenyans conduits par le directeur général d'Equity Bank BCDC. D'après Célestin Mukeba, le but de cette mission est de présenter aux investisseurs kenyans les différentes opportunités d'investissement au Kasaï Oriental. Suite à cela, plusieurs opérateurs économiques des provinces du Kasaï Oriental, du Sankuru et de l'Omami, ainsi que quelques autorités provinciales, séjournent en Mbujimayi pour participer à la foire économique qui débute ce lundi. Célestin Mukeba, directeur général de Equity Bank BCDC, s'exprime au micro des journalistes accrédités au gouvernorat de province.
Nous venons fraîchement de Goma et nous nous retrouvons à Mbujimayi. C'est dans le but de pouvoir faire voir aux différents investisseurs qui nous accompagnent les différentes possibilités qu'il y a d'investissement ici dans cette région. Nous savons que notre pays en général a beaucoup de défis à relever, notamment les défis d'infrastructure, l'autosuffisance alimentaire, les défis énergétiques et plusieurs autres défis. Et cela nécessite impérativement qu'il y ait des investissements pour que ces défis soient relevés. Raison pour laquelle nous avons mobilisé près de 300 investisseurs dans tout notre parcours afin de pouvoir de mettre en contact avec les nôtres pour voir dans quelle mesure ils peuvent intervenir dans les volets de l'agriculture, de l'éducation, de la santé. Aujourd'hui, on est focalisé à s'assurer d'abord qu'on puisse mettre les investisseurs avec les opérateurs économiques de la région pour qu'ils puissent explorer ensemble les opportunités d'investissement. J'aimerais souligner que cette mission s'inscrit dans la vision et dans la mission de Equity BCDC d'être le champion de la prospérité socio-économique de nos populations.
Et puis, rentrée judiciaire à Kindu dans la province du Maniema week-end dernier, la cérémonie s'est déroulée dans la salle Saint-Joseph de la Procure en présence des autorités politico-administratives. Plusieurs thèmes ont été développés par différents intervenants, dont la procédure de répression des infractions flagrantes, le droit à un procès équitable. Le président de la cour d'appel du Maniema, Roger Nzewe, a parlé autour de la procédure civile en droit comme thème de l'année judiciaire 2021-2022. 2022. Reportage Florence Kizalunga.
Parlant de la jurisprudence constante abondante, le procureur général a déploré la procédure suivie au maniement. Albert Kachama.
L'année dernière, nous avons connu beaucoup de problèmes à propos de la procédure de flagrance qui ne se déroule pas chez nous comme ailleurs, où la procédure de flagrance est faite dans 1-2 jours. Mais ici chez nous, les tribunaux avaient été allés à l'antipode même de la ratio legis du législateur. Ici, les audiences se prenaient pendant 30 jours. Les juges se complaisaient à placer les prévenus en détention préventive pour avoir le temps de négocier avec les avocats. Alors qu'ailleurs, la procédure de flagrance se fait sans désemparer dès l'instant que le prévenu est amené au tribunal.
Les corps des avocats de leur côté fustigent le manque de juges dans tous les tribunaux de paix de l'intérieur. Maître David Kakoko, bâtonnier à l'intérim du barreau du Maniema.
Dans la province du Maniema, sur les 8 tribunaux de paix, il n'y a que le seul tribunal de paix de Kindu qui est opérationnel avec 3 juges. Ceux installés au niveau des territoires ne fonctionnent plus parce qu'il n'y a plus de juges. Et cela remet en cause le droit reconnu aux justiciables par l'État congolais. Le droit à la population d'accéder à un juge. Ce droit est violé. Les populations ne savent plus à quel sens se vouer dans ces territoires-là.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Guinée, la CEDEAO maintient ses sanctions et attend un calendrier pour les élections. Lors du 60e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est terminée dimanche 12 décembre, la situation en Guinée a été abordée. Depuis septembre, les putschistes sont au pouvoir. La CEDEAO maintient des sanctions contre Conakry en attendant des avancées concrètes dans l'organisation des élections démocratiques.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Wenceslas Boussané. Il est professeur de droit à l'Université catholique de Bukavu. Il nous parle du contentieux autour de la question de la déchéance du gouvernement provincial du Sud-Kivu. Il s'entretient ici avec Cynthia Bachizi Nabizana. Suivez.
Professeur Boussané, bonjour.
Bonjour.
La notification de la destitution du gouverneur de province et de son gouvernement a été suspendue par la Cour d'appel du Sud-Kivu. Est-ce que cette Cour est-elle compétente pour statuer en la matière?
Nous avons suivi l'actualité, notamment d'abord à partir du moment du vote de la motion de censure, et nous avons suivi après qu'il y a eu une saisine de la juridiction, de la cour d'appel, siégeant en matière administrative. C'est une question sur laquelle nous revenons souvent, nous, dans nos enseignements et nos recherches, pour rappeler que une motion de censure est un acte injusticiable en l'état actuel du droit congolais. Dans la mesure où aucune juridiction n'a été rendue compétente, ni par la Constitution, ni par aucune loi actuellement, pour connaître d'une telle motion. Étant donné que cette motion-là, si elle est connue, même par cette voie de notification, c'est un acte qui est de nature politique. Encore une fois, dans la théorie du droit que nous enseignons, la notification est un acte qui ne contient aucune décision. Et quand un acte ne contient aucune décision, il n'y a rien que le juge peut aller vérifier du point de vue de la régularité ou non. Et la saisine du juge dans cette matière-là relève en tout cas d'une situation surprenante.
Surprenante, mais la Cour d'appel motive sa décision par un jugement qui fait jurisprudence. La Cour d'appel cite par exemple l'affaire Jean-Marc Kabound contre Jeannine Mabunda, où le Conseil d'État avait suspendu le calendrier de l'élection et de l'installation du nouveau vice-premier président de l'Assemblée nationale.
Ici, au Sud Kivu, on a déjà connu la déchéance du gouverneur Tshibalonza, qui avait saisi la Cour d'appel de Bukavu et l'ex-commission de justice à Kinshasa, mais ce n'était pas seulement lui. Il y a l'affaire Trésor Kapuku au Kasaï occidental, il y a l'affaire José Makila à Mbandaka, il y a eu beaucoup de tentatives de motion avec saisine des juridictions au Maniema, au Nord Kivu également, et on en a eu maintenant tout récemment au Lualaba, on en a eu dans les provinces de l'Ouest. Bref, on a vu venir comme ça une succession de saisines des juges, mais là où aucune constitution n'a donné compétence aux juges. Même si vous dites que ça commence à faire jurisprudence, mais c'est malheureusement une jurisprudence qui n'est fondée sur aucune base légale, qui n'est fondée sur aucune pratique juridique, disons, acceptable dans la tradition juridique qui est la nôtre.
Mais dans tout le cas, le compte du gouverneur ne l'entend pas de cette oreille. Pour le porte-parole du gouvernement provincial, le gouverneur est réhabilité dans ses fonctions avec la suspension de cette notification.
Vous avez raison, maintenant on est dans une sorte de situation, on peut dire, ambivalente, équivoque, puisque l'Assemblée estime avoir déjà fini sa mission. Les camps du gouvernement provincial estiment avoir saisi un juge qui dit avoir suspendu une notification et qui, de ce fait, estime que le gouvernement provincial est de nouveau dans ses fonctions habituelles. Maintenant, en termes de pistes pour sortir de cette situation...
Oui, dire... qui et surtout comment trancher ce litige?
C'est à quoi je ne peux que penser maintenant. À défaut pour les concernés eux-mêmes qui estiment avoir un droit à revendiquer tout de suite, moi je pense que la prérogative revient actuellement au président de la République. Il est le garant de la Constitution, il est le garant du fonctionnement normal des institutions. Je pense que il a aussi la responsabilité de demander à la CENI, parce que la loi prévoit que après les votes d'une motion de censure, dès que la démission est rendue et déjà effective, la CENI, dans les 15 jours, doit pouvoir organiser les élections pour de nouveau organiser un gouvernement provincial.
Vous vous en appelez au président de la République, mais le bureau de l'Assemblée provinciale en appelle aux bons offices du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur.
C'est encore un vieux réflexe. De l'époque où la province n'avait pas encore acquis son autonomie, conformément à la constitution actuelle de 2006. Qui veut que la province soit autonome et elle tient ses pouvoirs de la même constitution dont le pouvoir central tient aussi ses propres prérogatives? Donc la province n'est pas sous tutelle du gouvernement central via les ministres de l'Intérieur, comme ce fut le cas à l'époque où la province était encore sous décentralisation. Alors, je crois que même si, grâce à l'implication du président de la République, la loi va être appliquée, je vais quand même en appeler aux uns et aux autres, à l'Assemblée provinciale, au gouvernement provincial, d'avoir des cadres de dialogue en tant qu'humain, en tant qu'homme d'État, avec la dignité qui doit accompagner leurs fonctions, d'avoir des cadres de dialogue permanents pour éviter d'en arriver à cette arme ultime, la motion de censure. Et pour une province comme la nôtre qui a déjà connu beaucoup de déboires, tout le temps devoir recommencer, c'est en tout cas décourageant pour les citoyens qui attendent le développement. Donc j'encourage vraiment que même lorsqu'on va avoir un gouvernement installé conformément à la loi et qui est en harmonie avec l'Assemblée provinciale, qu'il y ait un cadre de dialogue permanent.
Pour la stabilité de la province.
Certainement.
Je vous remercie.
Je vous remercie, madame.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.